un petit goût d'évasion.
Et c'est vendredi et c'est aussi l'heure de votre quotidienne sur Transistor, la radio associative du bout du monde. On va parler histoire de France, c'est pas forcément la plus jolie, je vous préviens tout de suite. Rassurez-vous, la deuxième partie sera plus légère avec le sonar de Lilou, les coulisses avec la Miss Sancho et pour dessert, une petite balade pour observer les poissons de nos cours d'eau.
L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes avec Davy dans le LEM du vendredi. Vous êtes en direct de midi jusqu'à 13h. Et puis, comme d'hab, ce soir à 18h, c'est la rediffusion. Et bien sûr, vous pouvez écouter la radio tout le temps, peu importe où vous êtes, sur internet à transistor.bzh. Et ça, c'est pour l'éternité. Alors le patrimoine, on en parle souvent sur la radio et plus particulièrement du patrimoine vivant et c'est particulièrement intéressant quand on écoute les histoires qui ont façonné notre pays, notre culture à petite ou à grande échelle. Bon, alors dit comme ça, on s'attend à écouter de belles histoires mais la réalité veut que les histoires les plus sombres sont peut-être celles qui ont provoqué les plus grands changements et qui sont les moins racontées. Mais avant de vous dire qui est mon invité, on va écouter à sa demande un petit peu de musique.
Moi lève les matins haut, moi qu'à prendre bout de côte là, moi qu'à marrer moi pour moi aille faire moi, il garde son animaux moi haut. Les 6 heures moi fini, moi qu'à prendre grand oua.
Alors l'association que je reçois aujourd'hui est une association dédiée aux victimes de tous les esclavages. C'est l'association Mémoire des esclavages de Quimper et mon invité aujourd'hui c'est Max Relouza. Bonjour Max.
Bonjour, bonjour.
Comment ça va ?
Ben ça va très bien, je suis très heureux d'être ici avec vous et comme nous sommes le dernier jour du mois de janvier, je voudrais adresser à toutes vos éditrices et vos éditeurs Bloavezman Andol en breton et moins qu'à souhaiter zot en belle année et puis tiamberet pamoli fos.
Alors ça c'est en
créole.
En créole, voilà. C'est une belle langue, c'est beau hein.
C'est une langue de construction, c'est une langue de combat, et il faudrait presque une émission pour expliquer sa genèse et d'où elle vient.
Ouais, c'est vrai.
Oui.
Merci de me donner un petit tuyau pour la prochaine fois, quand on vous recevra. Ouais. Je suis super content de vous avoir.
Oui.
Je suis très content parce que c'est vraiment un très très beau sujet, l'esclavage, oui. Même si c'est un peu
douloureux.
Très difficile, ouais. Très douloureux, oui. On peut peut-être commencer par présenter un petit peu l'association, ce serait bien ça.
Ben, l'association est née, j'ai commencé à travailler sur le projet d'association Mémoire des esclavages en 98, après la Coupe du Monde de football Black Blanc Beurre. Et donc, nous avons créé l'association en 2010, avec comme objectif la réalisation d'une sculpture monumentale dédiée, qui fait 10 mètres de haut, dont je suis à l'origine de la maquette, et a été réalisé par le sculpteur monumental Marc Morvan de Quimper. Tout cela n'aurait pas été possible, à l'heure où je vous parle, sans le bénévolat, sans chaque contribution de bénévoles, et chaque contribution financière, parce que 65% de la réalisation de cette sculpture qui est à Brest, où nous aurons l'occasion d'y revenir, a été fait grâce à 65% de souscription des Bretons. Et ça, il faut le dire, c'est compliqué de porter une œuvre monumentale. Et j'ai été vraiment ému et heureux que les Bretons nous aident à réaliser cette œuvre, qui est aujourd'hui à Brest.
Ouais. C'est vraiment une très très belle histoire, votre association. Mais vous m'aviez dit au téléphone, quand on la préparait, que c'était quand même très difficile de définir cette notion d'esclave. Et il faut être particulièrement prudent avec le public quand on en parle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors, l'esclavage, c'est 3000 ans d'histoire. Hein ? Toutes les civilisations ont utilisé, dès la naissance du capital, à utiliser les plus pauvres et les plus faibles à leur fin. En ce qui nous concerne, la traite négrière transatlantique, d'ailleurs, avant tout propos, il faut dire que les hommes qui ont été embarqués sous les bateaux négriers ont été rasiés au même titre que qu'on rasiait les esclaves dans les forêts africaines. On allait dans les tavernes à Honfleur, à Saint-Malo, à La Rochelle, et on raflait les hommes ivrognes et on embarquait sur des bateaux pour aller chasser du nègre en Afrique. Et souvent, ils ne savaient pas pourquoi ils partaient. Donc, il y a toute cette histoire de la traite négrière transatlantique. Mais ne confondons pas servitude et esclavage. Il y a 15 millions de personnes aujourd'hui en France, en métropole hexagonale, qu'on peut considérer comme des gens en servitude parce qu'ils ne gagnent pas 1000 euros par mois. Tous ceux qui gagnent moins de 1000 euros par mois, comment voulez-vous vivre aujourd'hui dans notre société hyper industrialisée avec moins de 1000 euros? Ça s'appelle les gens en servitude. Entre la servitude et l'esclavage. L'esclavage, c'est quand on est la propriété de quelqu'un. Et aussi grave que cela peut paraître, il y a encore des gens esclavisés en France. Dans des familles très riches qui viennent d'Arabie Saoudite ou de l'Inde et qui viennent avec leurs petites esclaves et qui exploitent. Donc ça existe encore malheureusement. Et il y a 96 millions d'enfants esclaves dans le monde. 96 millions. Quand vous voyez nos doudous portables qu'on utilise si facilement, qu'on jette, qu'on achète, quand vous regardez tous les minerais qu'il y a à l'intérieur d'un portable, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes enfants qui sont exploités dans le monde par ces minerais-là. Donc parler de l'esclavage, aujourd'hui, c'est encore tabou. Quand j'ai créé l'association en 1998, c'était encore tabou de parler même de la création. Il a fallu attendre la loi Taubira de 2001 et qui a permis de populariser et d'ouvrir la porte de cette histoire en France hexagonale. Et notamment la création de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage en 2019, qui a permis, sous le président Hollande, et qui a permis d'avoir une institution, disons, qui a une aura au niveau national et international, qui est présidée aujourd'hui par Jean-Marc Ayrault, et dont la directrice générale est Madame Aïssata Seck, qui est une Sénégalaise, et qui a permis de faire un travail, un début de travail. Parce que quand on parle de devoir de mémoire, je ne sais pas de quoi cela, qu'est-ce qu'on dit devoir, quel devoir. C'est pourquoi que j'attache une grande importance au travail de mémoire. Parce que nous ne connaissons pas intrinsèquement l'histoire de l'esclavage, y compris en Bretagne.
Oui, c'est difficile. Moi, j'ai essayé de regarder et je me souviens même pas, en fait, quand j'étais petit, pendant mes cours d'histoire, d'avoir déjà eu vraiment plus de cours sur comment étaient traités les esclaves et pourquoi et dans quel sens et pourquoi c'est si obscur et pourquoi on n'a jamais parlé de ça dans les bouquins à l'école.
Mes ancêtres, par exemple, à l'école, étaient des Gaulois. Hein. Il dit, moi, je me suis rebellé très jeune, parce que je suis un emmerdeur public.
Ça commence.
j'ai commencé à gueuler quand on m'a dit que mes ancêtres étaient des Gaulois. Et donc, vous voyez, c'est compliqué. Ça a été. La France a un grand problème avec son histoire. Donc l'histoire de l'esclavage a eu son apogée par rapport au sucre, par rapport à l'industrie du sucre dans les pays outre-mer comme la Martinique. Moi, je suis né en Martinique le 15 janvier 1945. Donc je suis né dans ce pays de la Martinique, petit pays. Avec un grand cœur aussi, parce que les géographes ont dit que la Martinique faisait 11 000 km². Mais en fait, ils n'ont pas parlé de la partie maritime ni la partie de l'espace. Les géographes, il faudrait qu'ils revisent leur copie, parce que la Martinique, de sa partie terrestre, en passant par la mangrove jusqu'à l'horizon, ça nous appartient. C'est un petit pays grand. Et aussi, a produit des hommes de très grands bonhommes comme Aimé Césaire, mon père spirituel, Édouard Glissant, Franz Fanon et combien d'autres, les sœurs Nadal, parce qu'on parle toujours des hommes. Mais dans l'histoire de ces pays, la révolte qui a permis la libération de ces pays du joug de l'esclavage, même s'il a été accompagné par Schœlcher, a été le combat. Jamais, 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 les esclaves n'abdiquèrent leur droit à la liberté. De la razzia africaine jusqu'aux plantations, au travers des mers, avec les souffrances, avec les viols, avec les morts, parce que sur certains bateaux négriers, on voit qu'il y a, aujourd'hui, 31 janvier, mort d'une négresse, mort d'un petit négrillon, mort de trois esclaves jetés à la mer. Parce que nous, dans les bateaux, c'est une marchandise. Avant d'arriver sous les plantations, d'être un bien meuble, c'est une marchandise. Marchandise avariée jetée à la mer. Voilà. Ça a été d'une dureté et d'une souffrance incroyable.
Vous parliez tout à l'heure qu'on devenait la propriété de quelqu'un. Ça sous-entend qu'on leur enlevait pas seulement leurs droits, mais on leur enlevait aussi leur nom, leur prénom, tout ce qu'il y avait d'humain, en fait.
L'esclave qui est pris en Afrique, qui est rasié, qui part de centres de triage comme les centres en Guinée ou au Sénégal... ces esclaves-là, du jour au lendemain, n'ont plus de culture, n'ont plus d'identité, ils n'ont plus de reconnaissance religieuse, ils sont simplement
des
objets qu'on va baptiser dès l'arrivée sur les territoires européens ou aux Antilles à la religion apostolique et romaine. D'après la religion catholique. Et d'ailleurs, quand vous regardez le Code noir, on en parlera peut-être tout à l'heure, le Code noir qui réglemente la vie des esclaves, d'ailleurs, l'article 1 de ce Code noir, ce n'est pas des nègres qu'il s'agit, il s'agit des juifs. L'évacuation des juifs dans toutes les colonies françaises, 1615, l'édit du roi Louis XIV, d'évacuer les juifs dans toutes les colonies françaises. C'est article 1 du Code noir. Mais il y a moi, je m'appelle Relouza, R-E-L-O-U-Z-A-T. C'est pas un nom africain. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Parce qu'en 1848, à la libération de l'esclavage, on a donné des noms. Et mon nom ressemble plus ou moins plus à Nebouza, d'une petite ville de Clermont-Ferrand, Nebouza, qu'un nom africain. Et on nous a donné des noms. On a donné des noms. Et c'est pour ça que nous sommes un peuple des êtres troncs. nous n'avons pas de racines. Et cette racine, il a fallu le travailler à ce qu'elle prenne pied dans notre civilisation. Et c'est un combat. Sans haine.
Oui.
L'histoire est l'histoire.
Ça, on ne pourra pas la changer.
On ne pourra pas la changer. Et par contre, on peut travailler à avoir une humanité nouvelle. Et c'est aujourd'hui, j'ai 80 ans, je n'ai pas la prétention de parler au nom de mes enfants, ma grande fille a 57 ans, ni au nom de mes petits-enfants, mon aîné a 37 ans, de mes petits-enfants, ni de mes arrière-petits-enfants. C'est à eux, et c'est à la jeunesse que je dédie ce moment que nous passons ensemble, et je pense qu'il sera diffusé, c'est à la jeunesse que je m'adresse. À la jeunesse, sans haine, mais travailler pour une humanité nouvelle.
Comment vous avez su ça, que ce n'était pas en fait votre vrai nom, Relouza?
Ben parce que moi, je suis un enfant, j'ai été un enfant curieux, j'ai quitté l'école à 14 ans. Et chez moi, il n'y avait pas de livres. Il y avait le missel, il y avait la Bible et il y avait le catéchisme. C'est ça qu'il y avait comme lecture. Et nous avions pas très loin de chez nous une déchetterie qui s'appelle la déchetterie de la Jambette. Et c'est là que j'ai trouvé les premiers livres de ma vie. Les vieux livres, les vieilles revues que l'on jetait dans la déchetterie à être brûlées. Et c'est là, pour mon malheur, que j'ai découvert la gueule d'un Gaulois. Et quand on me disait que vos ancêtres les Gaulois, j'ai dit à mon institutrice à l'époque, mais c'est pas, ça ne me concerne pas, je ne suis pas un descendant de Gaulois. Elle m'a foutu derrière un tableau dans une chaleur épouvantable au mois de mai, avec un bonnet d'âne sur la tête. Je me suis révolté et elle a dit à ma mère, vous pouvez les sortir de l'école, il ne fera rien de bon dans la vie. et ça a été pour moi le déclenchement d'une révolte intrinsèque qui m'a permis de porter le combat. Alors, comment j'ai découvert que... c'est en lisant l'histoire. Parce que j'ai, en 1848, à la libération des esclaves... Le maître était obligé de donner un nom à ses esclaves. Il regardait dehors, il disait « Beau temps ? Ben vous vous appellerez Beau temps. » À l'autre qui venait ben, « Vous êtes mince, on va vous appeler Fine. » C'est comme ça qu'on a donné des noms après 1848 aux esclaves. Vous voyez la dépersonnalisation, ouais. Et qui a permis d'avoir des noms. Et par hasard, je me suis retrouvé devant un village pendant mes vacances, non loin de Clermont-Ferrand, où j'ai dit Nebouza en changeant deux lettres, c'est mon nom. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches et il est possible que je porte le nom de marchand d'esclaves ou d'un colon, quoi.
Okay, vous n'avez pas votre vrai nom, vous le connaissez ou pas ?
Non, on ne connaît pas.
Pas du tout.
Le nom africain, on ne connaît pas. Non, c'est des noms qu'on nous a donnés.
Vous pensez pouvoir le trouver un jour ?
Ah non, ça, c'est très compliqué. Il y a des recherches aujourd'hui. Il y a des recherches qui est fait au niveau scientifique pour retrouver des traces, mais c'est un travail énorme.
Ouais. Alors vous parliez des camps, des centres de triage. J'ai l'impression qu'on est à la poste et qu'on parle de colis. C'est un peu atroce.
Il y a Gorée, par exemple.
Lisez, parce que c'est la question que je vais vous poser.
Gorée, la porte du non-retour, et tous les gens qui vont à Gorée, ils sont épouvantés de voir comment ces esclaves qui étaient rasiés dans leur forêt, aussi bien une fratrie qui partait à la chasse était rasiée, on appelait la razzia, on les embarquait, et du jour au lendemain, n'avaient plus de personnalité, se retrouvaient à Gorée pour une destination inconnue.
Ouais. On avait des camps comme ça en Bretagne, notamment le camp de, j'ai plus le nom, Pontanezen.
Alors, ça c'est une autre histoire bien plus récente. Entre 1802 et 1803, en 1802 et 1804, au moment que Napoléon a voulu rétablir l'esclavage, il y a eu une révolte des peuples de la Martinique, de la Guadeloupe et de, d'Haïti. Et d'ailleurs, le général Delgrès qui va refuser de c'est un général de l'armée française, un noir, qui va refuser le rétablissement de l'esclavage. Il va se suicider avec tous ses hommes le 10 mai 1802 en Guadeloupe. Et les jours qui ont suivi, il y a eu une rafle de l'armée française sous Napoléon qui va faire venir à Brest 1500 Guadeloupéens haïtiens. Et 900 vont mourir à Brest pour des raisons de santé et de malnutrition. Une autre partie va contribuer à la réalisation de routes en Corse et une autre partie en Italie. Donc ça, c'est le camp de Pont-à-Nézène. Parler de l'esclavage en Bretagne, il y a un livre qui a été très bien fait par Annick Le Douget, je ne sais pas si vous la connaissez, il faudrait l'inviter, qui est une historienne, qui est docteur en sciences sociales, et qui a fait un livre « Juge esclave et négrier en Basse-Bretagne » et qui donne beaucoup d'éléments sur l'histoire de l'esclavage en Bretagne. Mais il n'y a pas plus d'histoire d'esclaves en Bretagne qu'ailleurs. L'histoire de l'esclavage est une histoire nationale. On a pour habitude de parler de Bordeaux, de Nantes. Il ne s'agit pas de Bordeaux, de Nantes, il s'agit de la République française. L'histoire de l'esclavage est une histoire nationale. Il faut le dire. Au moment du plus fort de la traite négrière, l'esclavage rapportait à la République française 19 millions de francs or sous la marchandise que représentaient nos ancêtres. L'Élysée a été construit avec le sang des esclaves. Les hôtels comme le Ritz a été construit avec le sang des esclaves. Et à Bordeaux, à Nantes ou ailleurs, et le meilleur lieu pour savoir effectivement combien d'esclaves qu'il y a eu en Bretagne et ailleurs, c'est les archives de la chrétienté, puisqu'ils étaient tous baptisés au nom de la religion.
Ouais. Et ça, c'est un petit peu le travail de votre association. Et puis, on a encore un petit peu de temps, on va en parler vite fait. En 2025, vous organisez donc la fête de la fraternité, j'espère.
Très grand moment.
Ouais.
Donc, alors, la fête de la fraternité, pour moi, c'est, comme je vous le disais, je suis sous les traces d'Aimé Césaire, Martin Luther King, Mandela, le combat qu'ils ont mené pour la liberté. Et comme disait Louise Michel, cette faillante femme qui a participé à la Révolution française, notre travail, c'est pour l'universalité de la fraternité universelle. Donc le 10 mai 2025 aura lieu la commémoration, puisque le 10 mai, c'est la commémoration nationale pour l'abolition de l'esclavage. Je ne vous cache pas que nous espérons, parce que nous avons travaillé avec la Fondation, pour la décentralisation des commémorations, que tout ne se passe pas à Paris. Donc nous souhaitons qu'il y ait une décentralisation et que la commémoration nationale ait lieu à Brest cette année, suivie de la fête de la fraternité, qui est un grand moment. Il y a 8 maisons de quartier engagées, il y a 25 associations. Et voilà, c'est un grand moment de la fraternité pour une humanité nouvelle.
Voilà, c'est ce que vous me disiez justement en introduction à l'émission, c'est que vous ne faites pas ça dans un esprit de revanche. Au contraire, vous faites ça dans un esprit de fraternité, justement.
Il n'y a pas de revanche à avoir.
Non.
L'histoire est l'histoire. Et si nous voulons transmettre à la jeunesse un bon message, c'est de leur dire, je n'aime pas le mot engagement, mais de prendre leur part dans la vie associative. Moi, je suis plus de 60 ans de militantisme. J'ai été élu conseiller municipal, j'avais 27 ans. J'ai cette volonté de vouloir transmettre à la jeunesse le combat pour la liberté et pour la fraternité.
Bon, alors, on n'a strictement rien fait de ce qu'on voulait faire pour l'émission. On est parti en total roue libre avec Max. C'était super de vous recevoir et j'espère que vous reviendrez. Vous reviendrez un petit peu avant la fête de la fraternité, j'espère.
Bah, ce serait sympa. Avec plaisir, je serai au rendez-vous.
Bon, merci
beaucoup. Je connais maintenant l'adresse.
Oui, vous savez où c'est. Merci beaucoup, Max.
Merci beaucoup.